Bonjour les amis. Alors, quel sentiment partagé, en tout cas pour moi, c'est le cas. Nous tous confinés lors de ce plus grand jour de l'année. C'est bizarre, mais c'est le jour où nous proclamons, Benjamin nous l'avait déjà dit, victoire. Nous disons oui, Jésus est ressuscité. Il est ressuscité de manière unique, tout à fait exceptionnelle. Dans notre histoire, rien d'autre a eu lieu de pareil. Jésus, Dieu, dans la personne de son Fils Jésus-Christ, a vaincu la mort. Ce jour est plus grand que Noël, nous devons le dire, car Christ est venu dans le monde, nous le célébrons à Noël. Pourquoi faire? Pour sauver des pécheurs, nous dit la Bible. Et c'est à Pâques, ce jour-ci, où ce salut est accompli. Mais de l'autre côté, nous sommes confinés, on célèbre ce magnifique jour de la résurrection. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, l'un des textes que Benjamin a commencé à lire pour nous là tantôt, Dieu soit remercié, l'apôtre Paul dit un peu plus tard, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La mort, il dit en parlant de la résurrection de Christ, a été engloutie dans la victoire. C'est un grand jour, ce jour. Donc ça, c'est d'un côté, mais de l'autre côté, voici, nous sommes confinés, nous proclamons victoire. Oui, mais où est-ce que nous proclamons cette victoire? Ben, sur votre canapé ou dans votre bureau, si vous êtes comme moi, avec le café en main, si vous voyez votre café. Coupé de nos proches, coupé des autres, coupé de notre Église. Et donc, c'est un peu bof dans un sens de dire victoire de cette manière-là. Et en fait, l'une des joies des récits de la résurrection, et si vous n'avez pas pu lire jusque-là les récits de la résurrection eux-mêmes dans les évangiles, les quatre évangiles du Nouveau Testament, ben je vous recommande d'aller trouver ces récits. Et ces récits abondent de joie, et non seulement de joie, mais aussi de joie physique. La façon par laquelle cette joie s'exprime chez les premiers disciples, c'était aussi physiquement. Que faisaient les femmes après que l'ange leur parlait au tombeau et qu'il leur a dit que Jésus est ressuscité? Le texte nous dit qu'elles couraient pour porter la nouvelle aux disciples. Que faisaient Pierre et Jean, que vous avez vu dans cette vidéo, une fois que les femmes rentraient pour leur expliquer ce que l'ange a dit? Ben, Pierre et Jean ont couru au plus vite vers le tombeau pour voir pour eux-mêmes ce qui s'est passé. Jean était plus vite que Pierre, nous dit le texte. Sûrement, lui, il s'entraînait pour les 20 km de Galilée à ce moment-là. Je me souviens d'ailleurs moi-même, la première fois que moi je jouais au golf, je sais que penser de jouer au golf pour le moment, c'est un peu difficile, mais à ma grande surprise, il y a un long moment, j'ai fait ce qu'on appelle un hole-in-one, c'est-à-dire avec un seul coup, j'ai frappé la balle, c'était avec un fer numéro 4, je m'en souviens toujours. Cela arrivait sur le green et la balle est rentrée dans le trou, tout dans un seul coup. Alors le golf, si vous suivez un peu le golf, c'est un jeu avec une étiquette bien établie. Il faut respecter le fait que d'autres jouent autour de vous. Il y a un peu de silence, un peu de respect. On ne crie surtout pas lorsqu'on joue au golf. Mais à ce moment-là, quand la balle est rentrée dans le trou, alors presque indépendamment de ma propre volonté, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai crié! Waouh! C'est impossible. J'ai fait le tour à un endroit où je me trouvais avec toutes les personnes et je faisais des high five avec ceux qui étaient là. C'était joyeux. La joie se partage donc d'une manière physique, les amis. Les victoires, ce fait que cela soit notre équipe de foot qui gagne, notre réussite lors d'un examen, une promotion au travail, qu'est-ce que ça donne? Ça donne envie de fêter cela physiquement avec d'autres personnes. Et c'est ça, je pense, qui rend notre confinement difficile, parce que la résurrection de Christ se partage. Et d'ailleurs, nous nous rassemblons physiquement le dimanche matin, chaque semaine, justement, car c'est le jour du Seigneur le dimanche, le jour où le Seigneur est ressuscité. Voilà pourquoi nous nous rassemblons. Et donc, ça fait du mal de ne pas pouvoir célébrer ce matin, cette victoire de la résurrection. Cela contribue aussi en partie, je pense, au danger, en fait, de renforcer encore plus l'idée que cette foi chrétienne n'est rien que privée. C'est OK pour nous, dans notre salon, mais ce n'est pas OK pour la place publique, car ce n'est qu'une conviction personnelle pour les chrétiens, cette résurrection. Mais les premiers chrétiens étaient super clairs sur ce point. Si Christ n'est pas ressuscité, disait l'apôtre Paul, votre foi est vaine. Oui, vaine. Donc, c'est-à-dire, si Christ n'est pas ressuscité, éteignez là maintenant vos ordinateurs tout de suite. Un petit truc religieux sur Internet qui fait plaisir à un petit nombre d'adeptes ne nous intéresse pas. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Si ce n'est pas vrai, la foi chrétienne, la résurrection, alors allumez le PlayStation tout de suite, les amis, ou retournez dans nos jardins, ou mangeons, buvons, car demain, nous mourrons. C'est ça ce que dit l'apôtre Paul. Mais si on se rassemble virtuellement ce matin, si on proclame, si on croit aujourd'hui encore cette vérité, c'est pourquoi? C'est parce que Christ est ressuscité. Oui, il y a d'autres choses dans la vie que Dieu nous a fournies pour notre bon plaisir. Nous ne voulons pas nier cela. C'est bon de temps en temps de faire du jardinage, c'est bon d'être sur le PlayStation de temps en temps, etc. Mais ce message de Christ ressuscité transforme la vie. Comprendre la victoire de la résurrection de Jésus d'entre les morts, c'est de voir le monde tout à fait différemment. Et dans ce temps qui nous reste, alors j'aimerais nous aider à mieux comprendre cette victoire. Pour ce fait, je vous propose donc cette lecture dans Exode chapitre 15, un chant de Myriam qui a été lu par une autre Myriam. C'est un texte qui nous parle d'une autre victoire, mais c'est une victoire, celle-là, qui anticipe la victoire que nous avons en Jésus-Christ. Il est question là, en Exode 15, de la victoire du Seigneur sur les armées du Pharaon lors de l'Exode, la sortie du peuple de Dieu de l'Égypte. Le peuple de Dieu vient d'être libéré grâce à la main puissante de Dieu. Souvenez-vous des fléaux sur le pays d'Égypte qui permettaient qu'à la fin de ces fléaux, le peuple de Dieu part d'Égypte, sort d'Égypte. Le dernier fléau, c'était lequel? C'était la mort des premiers-nés de toute famille égyptienne. Mais le premier-né de chaque famille du peuple d'Israël a été épargné. Comment cela? Parce que le peuple de Dieu avait célébré la veille de ce fléau, la nuit de ce fléau, avait célébré la Pâque. À la place donc de leur premier-né, un agneau sans tache était immolé, l'ange destructeur. Donc, voyez le sang de cet agneau sur les linteaux des maisons, des portes des maisons. Et donc, l'ange passait par-dessus chaque maison. Il a vu le sang de l'agneau qui a été placé donc, sur les linteaux. Pharaon, en conséquence, lui aussi, qui a perdu un fils, laissait partir le peuple de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passait après? Ensuite, le peuple devait traverser la mer Rouge et Pharaon, qui regrettait sa décision de laisser le peuple d'Israël partir, poursuivait le peuple avec son armée toute puissante. Et la suite, vous vous souvenez, c'est le prodige opéré par Dieu pour le passage en sécurité du peuple de Dieu de la mer Rouge et la destruction de l'armée égyptienne qui les poursuivait. Alors, quel est le rapprochement pour nous avec tout cela? Mais comme vous le savez, j'imagine, Christ est mort à la Pâque. Et le Nouveau Testament appelle Jésus notre Pâque, notre agneau sans tache. Lui a été le substitut pour tous ceux qui se confient en lui par sa mort à la croix. L'Éternel, le Seigneur, a fait tomber sur lui les fautes de nous tous. La punition qui nous donne la paix, nous l'avons chanté vendredi, est tombée sur lui, sur Jésus, sur cet agneau immolé. Donc, au cœur de la bonne nouvelle, au cœur donc, du message de la résurrection, selon 1 Corinthiens 15, les premiers versets que Benjamin a lu pour nous, c'est que Jésus soit mort, ou est mort pour nos péchés. Mais cette délivrance par la mort de l'agneau est accompagnée en même temps, intrinsèquement, par la défaite des ennemis du peuple de Dieu. Pour Israël, il était question en Exode 15 de Pharaon et de son armée. Mais pour le peuple de Dieu d'aujourd'hui, nous ne sommes plus un État-nation comme Israël. Le peuple de Dieu aujourd'hui se compose des personnes de toutes les nations, sur base non pas de la naissance du sang, mais sur base de notre foi commune, notre croyance en Jésus-Christ. Alors, les ennemis qui nous guettent ne sont plus donc Pharaon et son armée, mais ce sont le péché et la mort. Et notre contexte actuel, confinement, COVID-19, nous rappelle de ces deux ennemis, n'est-ce pas? D'abord, le péché, car j'imagine, vous, comme moi, vous luttez avec votre propre égoïsme lorsque vous vous retrouvez pour trop de temps à la maison avec les mêmes personnes, oui, ou vous luttez parce que vous êtes seul pour trop de temps et donc trop exposé à d'autres dangers de trouver la satisfaction et la joie dans d'autres choses que Dieu, notre Créateur. Ça, c'est le péché. Qu'en est-il de la mort? La mort, oui, parce que nous sommes confrontés tous avec notre mortalité pour le moment. Peu importe notre âge, peu importe notre statut dans la société, la mort nous guette. Et donc, Exode 15 est un chant qui célèbre la victoire du Seigneur, de l'Éternel, sur les ennemis. Et du début jusqu'à la fin, nous voyons cet accent sur la célébration. Verset 1 de ce texte nous dit « Je chanterai en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. » Et à la fin du chant, verset 21, « Chantez en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. » Verset 2 nous dit « Il est mon Dieu, c'est ça la conséquence, je le célébrerai. » Et donc, entre ces deux pôles du verset 1 et du verset 21, il y a de la réflexion à propos de cette victoire. Et j'aimerais souligner donc trois éléments exposés dans ce chant qui poussent à cette célébration. Chaque fois, je pense, en voyant la pertinence de ce chant, de ces éléments soulevés dans ce chant, pour nous, lorsque nous réfléchissons, nous, aujourd'hui, à la résurrection de Jésus-Christ. Alors, le premier point que nous voyons dans ce chant, c'est que le Seigneur effectue une victoire éclatante à travers une défaite écrasante. Le Seigneur effectue une victoire éclatante à travers une défaite écrasante. Pourquoi le verset 1 fallait-il chanter en l'honneur de l'Éternel? Comment avait-il fait éclater sa gloire? Il a précipité, continue le verset, le cheval et son cavalier dans la mer. Ta main droite, Éternel, est magnifique de force. Ta main droite, Éternel, verset 6 toujours, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur, verset 7, de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Vous voyez, il n'y a pas un temps d'embarras de célébrer cette victoire dans ces versets. Non, loin de là, il se réjouit du contraste qu'il y a entre la pensée de l'ennemi au verset 9 et ce que Dieu a fait par la suite au verset 10. Verset 9, je les poursuivrai, je les rattraperai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie, je tirerai mon épée, ma main les détruira, c'est ça ce que disait l'ennemi. Et verset 10, tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts, ils se sont enfoncés comme du plomb dans l'eau profonde. Alors, juste une petite illustration à ce stade, on doit faire simple parce que je ne sais pas si vous arrivez à voir ceci, mais voici de l'eau et voici une toute petite clou donc, qui représente du plomb dans ce verset 10. Et qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu s'élève contre ses ennemis? Alors, voici ce qui se passe. Il tombe comme du plomb dans l'eau. C'est aussi inutile que cela de se lever contre le Seigneur. Mais pourquoi donc cet accent sur cette victoire écrasante? Verset 2, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous voyez, le salut n'est que définitif lorsque les ennemis sont vaincus. Et c'est ça ce qu'on voit ici dans ce chant. Dans notre contexte actuel, c'est vrai que notre confinement, nous devons le répéter, nous aide tous à ne pas être exposés au virus COVID-19. Et cela épargne donc le nombre de personnes qui sont dans nos hôpitaux. Mais nous ne serons seulement à l'abri du danger que pose ce virus lorsqu'un vaccin est développé pour neutraliser ses effets. Ça, c'est la réalité. Il faut vaincre ultimement le virus et nous le ferons ultimement par un vaccin. Alors, Israël a pu sortir d'Égypte, mais l'ennemi poursuivait Israël. Ce n'est que lorsqu'il tombe dans la mer, l'armée égyptienne, que la victoire est assurée, qu'il soit sauvé définitivement. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Oui, Christ, vendredi soir, lors de sa mort, il prend sur lui la punition de nos péchés. Mais comment savoir que le péché est vaincu définitivement? Comment savoir que la mort n'aura plus d'emprise sur nous? Parce qu'on regarde autour de nous et nous voyons que oui, même aussi les croyants, nous continuons à mourir. Mais nous le savons, car Christ a vaincu la mort. Il est revenu à la vie, son sacrifice de lui-même à la croix a bel et bien accompli le pardon de nos péchés. Et plus rien ne nous empêche de nous approcher de Dieu. Oui, dans cette vie où nous continuons donc à mourir, mais la résurrection de Jésus-Christ devient les prémices de notre propre résurrection à la vie. Comme disait de nouveau l'apôtre Paul, « Ô mort, où est ton aiguillon? Tu n'as plus de puissance sur moi. » Donc, le Seigneur, d'abord, c'est notre premier point, effectue une victoire éclatante à travers une défaite écrasante. C'est une bonne chose. Nous devons célébrer cela. La deuxième chose à remarquer, c'est qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Au milieu du chant, il y a le verset 11 du chant d'Exode 15 qui dit « Qui est semblable à toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi, magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles? » Sous-entendu, nul n'est comme toi. Car ce Dieu, uniquement ce Dieu, à l'opposé de tout autre Dieu qui ne sont rien que des créations des hommes, ce Dieu agit pour du vrai parmi nous dans notre histoire, historiquement parlant. Et si les chrétiens proclament Jésus-Christ comme Seigneur, la source de cette conviction ne se trouve pas dans l'intensité de notre conviction. Est-ce que nous croyons la résurrection quand nous sommes tous dans notre bulle chrétienne et nous récitons de manière répétée à travers des siècles « Christ est ressuscité, Christ est ressuscité, Christ est ressuscité » et c'est ainsi que la résurrection est vraie pour nous? Non, nous croyons sur base des témoins oculaires des événements historiques. La pierre roulée, le tombeau vide, la vie transformée d'un mélange d'hommes et de femmes ordinaires qui avaient vu quelque chose d'extraordinaire. Et si vous ne connaissez pas ces preuves historiques qui témoignent de l'historicité de la résurrection. Moi, je vous recommande d'aller chercher pour vous-même. Demandez à la personne qui vous a donné ce lien pour que vous regardiez cela aujourd'hui et ils auront de la joie à vous aider à trouver des réponses à vos questions. L'une de ces personnes qui était témoin oculaire, c'était un disciple de Jésus qui s'appelait Pierre. Et quelques semaines après la mort de Jésus, ce Pierre qui avait renié le Seigneur la veille de sa mort, il était debout, confiant, à Jérusalem, en train d'enseigner la foule, défendre Jésus devant les autorités de l'époque. Que disait-il, ce Pierre, à ce moment-là? Il a dit, « Israélite, je cite des versets de Actes chapitre 2, « Israélite, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu, devant vous par les miracles, les prodiges, les signes que Dieu a fait par cet homme, par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. En le délivrant des liens de la mort, nous en sommes tous témoins. Nous l'avons vu, il dit. Et c'est ainsi que ce jour de Pâques s'applique à nous, que nous le voulions ou pas, car l'Église chrétienne ne proclame pas une vérité qui est vraie uniquement pour nous, comme si nous choisissons de croire, bien que cela n'ait pas eu lieu. Non, nous proclamons une vérité universelle, historique. Il est ressuscité. Il est temps de le savoir que cela signifie cet homme, Jésus-Christ, et Seigneur, il a toute autorité pour nous juger de la part de Dieu. Est-ce possible, peut-être vous vous demandez, qu'il est réellement ressuscité? C'est à vous de juger, mais les témoins oculaires, sans exception, défendaient cette vérité jusqu'à la mort, sans nier une seule fois ce qu'ils ont vu. Ils n'ont pas fait ça par intérêt personnel, ils n'avaient rien à gagner. Ils n'ont pas fait ça par de bonnes intentions qui étaient mal placées. Ce ne serait pas bien intentionné de semer quelque chose qu'ils savaient à l'avance n'était pas vrai. Pourquoi alors ils l'ont fait? Car oui, Dieu, comme Pierre avait dit, a opéré un prodige, un miracle. Seul le vrai Dieu qui se révèle à nous en Jésus-Christ et personne d'autre peut faire cela. Donc, Jésus-Christ est unique, peu importe notre confession religieuse ou philosophique jusque-là. Jésus-Christ est lui seul et Seigneur. Il a tout pouvoir. C'est essentiel de comprendre cela afin de pouvoir bénéficier de ce que ce Jésus a effectué pour ceux qui le suivent. Car, et voici notre troisième constat de ce chant de Myriam ou de Moïse, c'est que c'est ce Seigneur qui est la garantie de notre avenir. Ce Seigneur est la garantie de notre avenir. Et nous voyons cela dans la deuxième moitié de ce chant d'Exode 15. Verset 13 nous dit, « Dans ta bonté, tu as conduit, tu as racheté ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers ta sainte demeure. » La confiance du peuple d'Israël de pouvoir entrer dans la terre promise, c'était dans la bonté et la puissance de Dieu manifestée à ce peuple à travers ses prodiges. Ce n'était pas donc une confiance en eux-mêmes, dans leur capacité d'arriver dans la terre promise, maintenant que Dieu leur a donné un petit coup de pouce. Non, c'est par ta puissance tu le diriges vers ta sainte demeure. Et lorsque Pierre écrivait plus tard, l'apôtre Pierre écrivait plus tard à des chrétiens dans sa première lettre qui se trouve dans le Nouveau Testament, il disait ceci dans le premier chapitre au verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. » La résurrection, voyez-vous, par la bonté de Dieu, permet une nouvelle naissance. Pierre nous dira plus tard que Dieu, par Jésus, nous a transportés dans des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Dieu l'a fait, nous ne l'avons pas fait nous-mêmes. Et c'est pour cela, Seigneur, que Pâques, c'est tellement joyeux, nous devons le dire. Car cela nous rappelle que la foi chrétienne n'est pas un appel à tourner la page nous-mêmes, à recommencer, à nous appuyer sur nos propres forces pour faire le nécessaire d'apparaître sain et sans défaut devant Dieu. Ce n'est pas que Dieu nous dit ce matin, « Ok, Christ est ressuscité, je remets le compteur à zéro, maintenant je vous donne une seconde chance. » Il y a peut-être dans le climat actuel un petit danger que nous disons en fait. Pour finir, nous ne sommes pas aussi mauvais que ça. Car pour le moment, il y a beaucoup de bonne volonté qu'on observe parmi nous. Beaucoup de personnes qui veulent aider, beaucoup de personnes courageuses qui se sont portées volontaires pour rejoindre les services de santé, pour donner un coup de main ici et là. Merci Seigneur pour ces différentes initiatives. Et prions qu'une fois que la crise passe, nous restons imprégnés de cet esprit de service. Mais tel est le cœur humain, que ce n'est pas donné d'avance que ce serait le cas. Espérer, plaider ce que moi je fais dans cette vie, ce que cela suffira pour que le Seigneur bouche ses yeux à mes fautes, à mes faiblesses. C'est l'équivalent, si vous voulez, de quelqu'un aujourd'hui avec le virus qui dit avoir bien lavé les mains en même temps qu'il tousse dans le visage de quelqu'un d'autre. Le fait de laver les mains n'excuse pas le fait de tousser. Par nous-mêmes, nous n'arrivons pas à pouvoir être la personne que le Seigneur nous a appelés à être. Et donc, l'appel la proclamation de la résurrection, c'est que c'est le Seigneur qui nous fait naître de nouveau pour une espérance vivante. C'est lui la garantie de notre avenir, notre place auprès de lui. Jésus disait, en parlant de sa résurrection, « Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Jésus ne nous dit pas, donc voici le chemin à suivre, mais il dit, je suis le chemin. La résurrection de Christ permet que Dieu nous ressuscite avec lui. Non pas parce que nous le méritons, nous avons fait suffisamment de bonnes choses, nous avons fait des efforts qu'il fallait pour que Dieu nous ressuscite avec lui. Non, parce que Dieu, dans sa bonté, s'engage à nous ressusciter avec lui. N'est-ce pas un encouragement, une nouvelle fois, pour nous, les amis? Peut-être nous avons oublié cela. Peut-être nous sommes toujours avec un fardeau des œuvres religieuses à faire pour être acceptés, pour être assurés devant Dieu. La foi chrétienne est un appel à la découverte de ce que le Dieu Tout-Puissant a déjà fait pour que nous soyons réconciliés définitivement avec lui. Il nous donne une espérance vivante, confiante. Cela ne dépend pas de moi, de toi. Cela dépend de lui, de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Oui, c'est vrai que suivre Jésus est exigeant, coûteux. Ça, nous ne devons pas le nier. Mais ce n'est jamais un fardeau. Cette semaine aussi, j'ai lu que nous fêtons 75 ans depuis la mort de Dietrich Bonhoeffer, un pasteur allemand lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il a été tué par des Allemands en 1945, tout à la fin de la guerre, exécuté par pendaison. Et tandis qu'on venait chercher Bonhoeffer pour aller le pendre, il s'est tourné vers son co-détenu, qui s'appelait un homme, Payne Best. Et il lui a dit, c'est la fin. C'est la fin, pour moi, c'est le début de la vie. Et après la guerre, un médecin du camp de concentration écrit ceci sur les derniers moments de ce pasteur allemand. À travers la demi-porte d'une pièce de la cabane en bois, j'ai vu le pasteur Bonhoeffer qui, avant d'enlever sa tenue de prisonnier, à genoux sur le sol, priait son Dieu avec ferveur. J'ai été très profondément ému par la façon dont cet homme aimant, par la façon dont cet homme aimant a prié, avant tant de piété et d'assurance que Dieu entendait sa prière. Sur le lieu de l'exécution, il a de nouveau prononcé une courte prière, puis a gravi les marches de la potence, courageux et serein. Sa mort n'a pris que quelques secondes. Depuis près de 50 ans, je travaille en tant que médecin et je n'ai jamais vu un homme mourir avec une telle soumission à la volonté de Dieu. Alors, d'où venait son assurance? Non pas de lui-même. C'est ça ce que nous apprenons aujourd'hui. Dans le Dieu qui ressuscite les morts, vous pouvez aussi avoir cette assurance. C'est merveilleux, Pâques. C'est grandiose ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Ça se chante, chers amis. Et donc, le cantique en Exode, chapitre 15, nous pousse à chanter, verset 1, verset 21, « Chantez à l'honneur de l'Éternel », disait Myriam. Que disait Pierre lorsqu'il écrit sa première épître? « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. » Oui, proclamons-le, « Béni soit Dieu, qu'il soit béni, célébrons-le. » Et donc, en terminant, j'aimerais vous demander, si vous êtes encore connecté, ceci. Est-ce qu'une corvée pour vous de participer à ceci, même de chanter, de suivre un culte? Est-ce que c'est une chose à faire simplement parce que vos parents vous demandent de le faire? Est-ce que c'est une chose à faire pour vous parce que oui, vous reconnaissez que ça fait preuve de respect par rapport à Dieu? Est-ce que c'est une chose à faire parce que c'est quelque chose de sympa, de temps à autre, d'essayer des choses différentes? Pourquoi pas, je vais essayer cela. Si c'est le cas, ben, j'aimerais vous encourager, chers amis, à puiser davantage les raisons, le fondement de cette célébration. En Christ, Dieu a définitivement écrasé les ennemis les plus redoutables, le péché, la mort. En Christ, Dieu se révèle comme étant le seul unique Seigneur qui opère des prodiges dans notre monde. Et en Christ, l'évangile de la mort et la résurrection de Christ, Dieu nous donne une nouvelle naissance. Il garantit notre propre résurrection, notre joie de se retrouver dans sa présence pour toujours. Je pense dans un instant, nous allons chanter un nouveau chant qui dit « Jésus vit, mort, anéanti, salut, accompli. » Voici ce que nous célébrons, chers amis, ce Pâques 2020. Même si nous le célébrons chez nous en confinement, nous proclamons une bonne nouvelle. Alors que Pâques 2020 soit joyeuse, peut-être de manière inattendue pour chacun d'entre nous cette année-ci.